content de vous retrouver pour cette nouvelle saison radiophonique. Merci. Avec, en plus, on commence par une chronique on ne peut plus d'actualité.
Mais oui, comme toujours, on essaye de suivre l'actualité, c'est quand même important. Alors évidemment, le grand sujet du moment, eh bien, c'est la crise énergétique. Allons-nous pouvoir nous chauffer cet hiver et à quel coût ? Alors face à ces questions hautement sensibles, mercredi dernier, Elisabeth Borne a fait deux déclarations sur les mesures d'économie d'énergie pour contenir l'augmentation du prix du gaz à 15% au lieu des 40% réels, et pour parer à d'éventuelles coupures de courant. Alors, la question qu'on se pose, c'est ces mesures sont-elles efficaces et surtout sont-elles suffisantes ? Alors tout d'abord, la crise ne date pas de la crise de la guerre en Ukraine, hein, mais de 2021, puisque le prix du gaz a été multiplié par 20 depuis cette date. Mais pour maintenir la paix sociale, l'État a bien sûr mis en place des boucliers tarifaires pour un coût estimé à environ 40 milliards.
Et alors, quel est le problème, Soizic ?
Eh bien, tout d'abord, on dit en économie que le prix est un signal. On parle de signal prix. C'est-à-dire que quand un bien devient rare, son prix augmente tellement qu'il dissuade le consommateur d'en demander. Par conséquent, la demande ralentit, ce qui fait rediminuer le prix. Mais pour les économistes, il semble que 15% d'augmentation au lieu des 40 paraissent bien faibles au regard de la problématique. Ils estiment que 25% d'augmentation aurait effectivement pu être un véritable signal prix pour inciter à une diminution drastique de la consommation d'énergie, surtout pour les plus riches qui d'ailleurs peuvent supporter sans trop de problèmes une telle hausse tout en étant les plus gros consommateurs d'énergie. Par ailleurs, plutôt que de faire bénéficier à tous de ce bouclier fiscal, il aurait été plus juste socialement d'en faire bénéficier les ménages les plus pauvres qui souvent habitent en périphérie des villes et qui ont donc besoin plus souvent de leur véhicule pour se rendre au travail, et que ce sont souvent ces mêmes ménages qui habitent dans des passoires thermiques. Alors vous comprenez qu'un chèque énergie de 200 euros en moyenne, mais ça paraît bien dérisoire.
Mais alors, comment explique-t-on ces pénuries ?
Eh bien, on a d'un côté la demande qui explose, avec nos sociétés qui s'électrifient de plus en plus, que ce soit d'ailleurs au niveau du chauffage, parce que par exemple, les pompes à chaleur sont très gourmandes en électricité, que ce soit les voitures électriques qui se massifient ou la réindustrialisation de l'Union européenne. De l'autre côté, l'offre se raréfie, avec l'arrêt des livraisons de gaz russe, bien sûr, l'arrêt de la moitié de nos réacteurs nucléaires pour cause de maintenance, sans oublier la spéculation sur les marchés financiers, et puis se rajoute à cela la mauvaise stratégie énergétique de la France depuis une dizaine d'années. Parce qu'en effet, pour faire des économies, on a raboté tout ce qu'on pouvait sur les capacités de production d'électricité. C'est-à-dire que si cet hiver les gens se lèvent tôt ou s'il fait froid, on ne passe pas ce que les spécialistes appellent la pointe de demande en énergie, parce que notre système de production n'a aucune réserve. En gros, on est à l'os. Alors, enfin, fort de notre nucléaire, nous avons en France très peu investi dans le solaire et l'éolien. Pour vous dire, la France occupe la 17e place sur 19 dans l'Union européenne au niveau des énergies renouvelables.
Alors, que va-t-on faire pour continuer de produire cette électricité ?
Eh bien, tout simplement, nous allons réouvrir les centrales à charbon pour 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on s'achemine allègrement vers une augmentation du prix, avec en plus un accroissement de la pollution. C'est la double peine. Alors non, en fait, le vrai problème est bel et bien notre niveau de confort qui consomme trop d'énergie, trop de matières premières et malheureusement trop d'eau. C'est pourquoi il faut certes modifier la demande, mais il faut également modifier l'offre. Par exemple, faire la promotion des logements plus petits, agir sur la mobilité, puisqu'elle constitue le premier poste à effet de serre en France, discréditer la fast fashion, industrie très lourde en consommation d'eau, inciter à diminuer la consommation de viande, et puis aussi supprimer les panneaux lumineux qui consomment chacun autant qu'un ménage de 4 personnes. On pourrait aussi instaurer un quota de kilowattheures gratuit, comme de l'eau d'ailleurs, pour assurer les besoins de base, et puis après appliquer un prix élevé pour les suivants. Et c'est d'ailleurs ce que propose Bruxelles, mais ça pour le coup on ne l'entend pas. Autrement dit, compter sur les éco-gestes ne suffit pas. L'ADEME nous dit d'ailleurs que même si on le faisait tous tout bien comme il faut, on ne supprimerait que 20% du problème. Alors les gouvernements successifs depuis 40 ans, imaginez la sobriété énergétique heureuse, c'est-à-dire qu'on allait consommer plus tout en polluant moins en se dirigeant vers le tout électrique. Eh bien, pas de chance, c'est exactement l'inverse qu'il se produit. La consommation augmente tout le temps, ce qui fait qu'on se dirige vers une sobriété énergétique subie qui risque d'être difficilement acceptable socialement, surtout quand on sait que les 1% les plus riches polluent 4 fois plus que les 50% les plus pauvres. Alors, en plus de la crise énergétique et écologique, il est fort à parier que se profile également une crise sociale. Les gilets jaunes, finalement, risquent de ne pas être que du passé.